Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes frères, profitons de ce que la Sainte Église nous fait célébrer le très saint sacrement pour méditer quelques instants sur les fruits de la Sainte Eucharistie. Nous le ferons avec celui qui nous fait chanter aujourd'hui les louanges de ce sacrement, Saint Thomas d'Aquin. La messe et l'office de ce jour sont un chef-d'œuvre tout à fois de théologie et de poésie chrétienne qui trouve sa source et son développement dans sa somme théologique. Alors allons donc voir ce que saint Thomas y enseigne à propos des effets de l'Eucharistie. Mais auparavant, il nous faut rappeler deux vérités fondamentales. Tout d'abord, comme l'enseigne saint Thomas d'Aquin, l'Eucharistie est le sacrement de la passion du Christ. Certes, comme le dit saint Paul, Jésus-Christ ressuscité ne meurt plus. Son corps et son sang, maintenant glorieux, restent unis pour toujours. Cependant, la consécration séparée du pain et du vin à la messe représente la séparation du corps et du sang de notre Seigneur qui a eu lieu sur la croix le vendredi saint. Monseigneur Lefebvre remarquait qu'on a trop tendance à séparer l'Eucharistie de la croix. L'Eucharistie est le fruit du sacrifice. Dans la Sainte Hostie, notre Seigneur a les mêmes dispositions qu'il avait sur la croix. En communion, nous recevons Jésus qui vient de renouveler de manière non sanglante, son sacrifice du calvaire. D'autre part, deuxième vérité fondamentale, alors que les autres sacrements nous donnent la grâce qui nous vient de notre Seigneur, le sacrement de l'Eucharistie nous donne notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. L'Eucharistie est donc le couronnement de tous les sacrements. Tous convergent vers lui comme les rayons de l'ostensoir convergent vers la blanche hostie. Mais il nous faut maintenant voir quels fruits nous apporte cet auguste sacrement. Pour connaître l'effet propre d'un sacrement, il faut considérer au moyen de quel rite il est administré, car les sacrements produisent dans nos âmes ce dont ils sont le signe extérieur. Ainsi, le baptême est conféré en versant de l'eau sur le front de l'enfant pour signifier que ce sacrement lave son âme de la tache du péché originel. L'Eucharistie, elle, nous est donnée sous forme de nourriture. Cela veut donc dire que ce que la nourriture produit dans notre corps, ce sacrement le produira analogiquement dans notre âme, avec cette différence que tandis que la nourriture matérielle qui nous est inférieure se change en notre propre substance, devenant notre corps, notre sang. Ici, c'est la nourriture qui nous change en elle-même, puisqu'elle nous est supérieure, c'est notre Seigneur. Ainsi, saint Augustin entendit-il notre Seigneur lui dire « Ce n'est pas toi qui me changeras en toi, comme l'aliment de ta chair, mais toi, tu seras changé en moi. » Alors, quelle transformation cet aliment divin produit-il dans notre âme ? Toujours la comparaison avec la nourriture matérielle. De même que la nourriture matérielle conserve la vie de notre corps, qu'elle la développe, qu'elle répare nos forces et qu'elle nous réconforte, ainsi en est-il de la Sainte Eucharistie à l'égard de notre âme. La première condition, bien sûr, étant que nous la recevions en état de grâce. De la même manière qu'on ne nourrit pas un corps qui est mort, un cadavre, on ne peut pas nourrir une âme qui est morte par le péché mortel. Il faut d'abord lui redonner la vie par la confession. Le premier fruit de la Sainte Eucharistie est donc de conserver la vie de notre âme en la préservant du péché mortel, dit saint Thomas. Il s'appuie ici sur le témoignage de notre Seigneur lui-même. Tel est le pain descendu du ciel, que celui qui en mange ne meurt pas. De même qu'une bonne alimentation nous fortifie intérieurement contre la désagrégation de notre corps et extérieurement contre les attaques des microbes et autres virus, et ainsi conserve notre vie, Et bien de la même manière, l'Eucharistie à l'égard de notre âme. Comment cela? Eh bien, puisque ce sacrement nous unit au Christ lui-même, la force divine de notre Seigneur devient la nôtre pour résister aux tentations. « Je suis le pain des forts », dit notre Seigneur à saint Augustin. Et étant le signe de la passion de notre Seigneur, ce sacrement repousse les attaques extérieures des démons à qui la passion est terrible et qu'elle fait fuir. Bien sûr, il ne faut pas exagérer, ce serait une erreur de croire qu'avec l'Eucharistie, le péché devient impossible. Nous gardons toujours la liberté de faire le mal. Mais à celui qui prend tous les moyens pour rester uni à notre Seigneur, l'Eucharistie donne une force invincible dans les combats de cette vie. D'ailleurs, chez les premiers chrétiens, on donnait la Sainte Communion aux martyrs avant leur supplice, on leur apportait en cachette. Et la Sainte Eucharistie étant si forte contre les tentations, eh bien, il est donc conseillé de communier fréquemment pour persévérer dans l'état de grâce ou pour vaincre une habitude de péché grave. Il faut aller plus loin. De même que la nourriture matérielle ne se borne pas à conserver, mais qu'elle développe aussi la vie corporelle, eh bien la Sainte Communion ne se contente pas de maintenir l'âme en vie en la préservant du péché mortel, elle développe toutes les facultés de l'âme. Mais tandis qu'aux forces corporelles, il y a bien sûr des limites qu'on ne peut pas dépasser, la vie spirituelle, elle a cet avantage de toujours pouvoir grandir grâce à l'Eucharistie. Bien sûr, les autres sacrements en conférant la grâce augmentent la vie surnaturelle, mais chacun dans un but plus spécial. Par exemple, la confirmation nous donne la force de témoigner de notre foi. L'extrême onction apporte les grâces pour le dernier combat. Le mariage, les grâces pour mener saintement la vie conjugale et élever chrétiennement les enfants, etc. En reprenant la comparaison de l'alimentation, il y a des aliments qui font davantage de bien au cœur, d'autres aux reins, ou à la circulation sanguine, etc. Et il y en a d'autres qui sont des reconstituants généraux quand on est fatigué. Bon. Eh bien, l'Eucharistie est de ceux-là. Elle est un aliment complet pour notre âme, développant toute notre vie spirituelle par l'union au Christ Jésus, explique saint Thomas. C'est par elle surtout que nous avançons vers cette perfection de la vie chrétienne à laquelle notre Seigneur appelle tout baptisé. L'Eucharistie conserve la vie de notre âme et la développe. Il y a un troisième effet. De même que la nourriture matérielle répare les pertes de force que nous subissons quotidiennement, c'est pour ça qu'il faut manger tous les jours, et bien de même la communion répare les déperditions spirituelles qui sont causées par les péchés véniels. En effet, les péchés véniels diminuent la ferveur de notre charité. Eh bien, l'arrivée de notre Seigneur dans notre âme, en lui faisant produire des actes d'amour, répare les pertes occasionnées par les péchés véniels et les efface. Le Concile de Trente dit que l'Eucharistie est l'antidote qui nous libère de nos fautes quotidiennes. Enfin, l'Eucharistie est cause de délectation pour l'âme, lui procurant un bien-être analogue à celui procuré au corps par un bon repas. Mais il est important de nous demander maintenant quelle est la cause de tant d'effets de ce sacrement. Eh bien, c'est la charité. L'Eucharistie est le sacrement de la charité, dit saint Thomas. Il la représente, dit-il, puisqu'il rappelle la charité de notre Seigneur qui s'est sacrifié pour nous sur la croix. Et il la produit en nous. Il est à la fois l'expression de l'amour du Christ pour nous et la cause de notre amour pour lui. Saint Jean Damascène dit que l'hostie est comme une braise qui enflamme notre charité. C'est un Jésus brûlant d'amour pour nous qui arrive dans notre âme à la communion pour nous enflammer d'amour pour lui et pour le prochain. Ah, qu'il fut doux le premier baiser de Jésus à mon âme, dit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus à propos de sa première communion. Oui, ce fut un baiser d'amour. Je me sentais aimé et je disais, je vous aime, Jésus, je me donne à vous pour toujours. Ce jour-là, notre rencontre ne pouvait plus s'appeler simple regard, mais une fusion. Nous n'étions plus deux. Thérèse avait disparu comme la goutte d'eau qui se perd au sein de l'océan. Jésus restait seul. Il était le maître, le roi. Thérèse se sentait si fragile que pour toujours, elle désirait s'unir à la force divine. Bien sûr, tous ces fruits ne sont produits par la communion eucharistique que si nous recevons la Sainte Hostie non seulement en état de grâce, mais avec un grand désir d'union à notre Seigneur. Faisant ensuite un temps suffisant d'action de grâce pour qu'il agisse en nous et profitant dans la journée, dans la semaine, de ce que la charité a augmenté dans notre âme, que notre Seigneur l'a fait grandir, eh bien pour redoubler de générosité dans notre amour de Dieu et du prochain. Ainsi, la Sainte Eucharistie nous fera avancer eh bien, tout au long de notre vie vers la perfection de la vie chrétienne. Alors demandons cette grâce à l'occasion de cette fête du Très-Saint-Sacrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.